fallait aller au plus pressé, rendre vie au corps paralysé du pays. Passant sur les graves conséquences économiques des revendications syndicales, le gouvernement et le patronat ont conclu ce matin avec les centrales ouvrières d'importants accords. La négociation n'est pas encore achevée, cependant, mais on peut vraiment espérer que la fin est proche et qu'après consultation des travailleurs en grève, le travail reprendra. Ce matin, en Conseil des ministres, seront arrêtés les termes du projet de loi que le général de Gaulle proposera le 16 juin au référendum. Sur cette procédure, M. Jacques Duhamel fait des réserves et M. François Mitterrand se déclare hostile et veut des élections. Quant au Parti communiste, il réclame la mise au point rapide d'un programme de gouvernement avec la Fédération de la gauche. Que signifie tout cela? Que l'on s'efforce, aussi bien du côté du pouvoir que du côté de l'opposition, de revenir à la normale. Chacun, dans son usine ou dans son bureau, va reprendre le travail, tandis que les grandes luttes qui secouent le pays ne se livreront plus dans la rue ou derrière les grilles des ateliers, mais sur le terrain de la politique. Tout semble se passer, au fond, comme si la société installée, celle des adultes ayant réglé ses affaires, s'apprêtait à reprendre comme avant ses occupations. On s'éponge le front, on pousse un ouf de soulagement, tout en jetant quand même un regard inquiet sur les incendiaires. Je veux parler des étudiants. Au cours des négociations qui se sont déroulées à l'hôtel du Châtelet, un seul des participants, semble-t-il, s'est soucié d'eux. C'est l'un des dirigeants de la CFDT, M. Bonetti. Il estime anormal, M. Bonetti, qu'on se préoccupe exclusivement des problèmes ouvriers alors que les conflits sociaux actuels ont été provoqués par le détonateur des étudiants. M. Bonetti a raison et tort à la fois. Il a tort parce que M. Georges Pompidou a lancé à deux reprises, la première fois à son retour d'Afghanistan, la seconde fois hier soir, une invitation aux dirigeants des organisations d'étudiants. Le Premier ministre n'a reçu aucune réponse. Mais M. Bonetti a également raison, car ce que les étudiants demandent, ce n'est pas une négociation, vraiment une négociation sur la réforme de l'université. Voilà pourquoi, faisant la sourde oreille aux invites de M. Pompidou et d'un certain nombre de gens raisonnables, je mets ce mot entre guillemets à l'intention des étudiants qui m'écoutent, voilà pourquoi l'UNEF a confirmé son ordre de manifestation pour ce soir, une manifestation sans violence, du moins dans l'intention de ses organisateurs. Je voudrais essayer d'expliquer, non pas ce qui se passe, mais très modestement ce que je crois comprendre qui se passe. Beaucoup cherchent, comme je le fais. M. Edgar Faure a parlé, dans son livre intitulé « Prévoir le présent », d'un déficit de considération. Un mot que M. Valéry Giscard d'Estaing a repris la semaine dernière à la tribune de l'Assemblée nationale. Jean-Jacques Servan-Schreiber, dans son numéro spécial de l'Express, ce matin, expose que le socialisme dont les étudiants se réclament aujourd'hui ne met pas en cause la propriété considérée comme un problème accessoire, mais le pouvoir. Il ne cherche pas, ce socialisme, à s'emparer des moyens de production, mais des centres de commandement. Je crois que nous approchons. Passons maintenant de la théorie au sentiment, du raisonnement à la passion. Les étudiants, je veux parler, je le précise bien, de cette minorité à laquelle M. Bonetti songeait en parlant de détonateur, de cette minorité qui entretient l'agitation, et non du grand nombre de ce parti, des silencieux qui ne se manifestent pas. Ces étudiants révolutionnaires, donc, considèrent qu'une réforme de l'université dans ce qu'ils appellent la société bourgeoise n'a aucun sens. Ils ignorent la patience et les changements successifs, ce sont des mutants politiques. Les négociations ne les intéressent pas. Ce qui les intéresse, c'est la révolution. Alors ils se sentent frustrés, bien plus, trahis. Ils comptaient que leur détonateur ferait exploser la classe ouvrière et non qu'elle mènerait ses représentants discuter du SMIG avec M. Pompidou. Trahis, ils pensent l'être par le général de Gaulle et son référendum, par le Premier ministre et ses tables rondes, bien sûr, mais surtout par la classe ouvrière et par ses représentants, le Parti communiste et la CGT. Ils ne comprennent pas, à tort ou à raison, que ceux-ci, le PC et la CGT, ne conçoivent pas la révolution comme eux, et en tout cas pas en se colletant avec les CRS. Ce sentiment d'abandon les pousse à une sorte d'exaltation désespérée qui peut engendrer les plus graves excès. Je pense aux bonzes qui se transformaient en torches simplement pour le témoignage, ou plutôt à ces nihilistes russes, à ces anarchistes français qui, au début du siècle, lançaient des bombes dans le landau d'un monarque ou dans l'hémicycle de la Chambre des députés, convaincus que de la terreur sortirait la révolution. À ces fous sublimes, la mort semblait douce. Eux aussi pensaient que le sang des martyrs est une semence. Oui, mais voilà, voilà. Le tsar, puis Kerensky, ne tombèrent pas sous les coups des terroristes, mais sous l'organisation de Lénine. Et lorsque Vaillant eut lancé son engin au Palais Bourbon, le président s'écria avec beaucoup de sang-froid, « La séance continue. » Que les étudiants qui m'entendent le sachent, la séance continue toujours, après les actes individuels, même lorsque Che Guevara, pour la théorie, a remplacé Bakounine. Il me cracherait au visage si je me trouvais en face d'eux, disant qu'il faut les sauver d'eux-mêmes et de ceux qui, dans leur ombre, exploitent leur fureur avec des intentions impures. Les sauver d'eux-mêmes, comment? Je l'ignore. Peut-être, et je rejoins là M. Bonetti, en prêtant attention aux étudiants, à tous les étudiants cette fois, et pas à la sauvette, mais en manifestant que de ce jour, l'imagination, la volonté de réforme et le cœur de la nation leur sont exclusivement consacrés. Que s'ouvre un large dialogue de toutes les manières possibles, que ces travaux poursuivis dans la brûlante atmosphère des facultés depuis 3 semaines soient enfin pris en considération. Coupés de la masse ouvrière servie par ces syndicats et de la masse étudiante engagée dans la transformation de l'université, les enragés accepteraient peut-être de reconnaître que les révolutions qui réussissent sortent toujours de l'enthousiasme et jamais du désespoir. À Paris, hier soir, le faisceau tricolore des fêtes nationales montait au-dessus de l'Arc de Triomphe. Les klaxons des automobiles sur les Champs-Élysées scandaient le tititi-tata des militants gaullistes, sans que l'on sût très bien s'ils saluaient ainsi le général, au risque de troubler le sommeil présidentiel, ou s'ils célébraient le retour de l'essence chez les pompistes. Le retour de l'essence, voyez-vous, c'est à ce signe que l'on connut que la révolution était morte, beaucoup plus que par les dépêches annonçant un peu partout la reprise du travail. Cette reprise, elle a pour ainsi dire commencé là où la grève n'avait jamais eu lieu, à l'électricité et au gaz de France. Un accord a été signé hier. Comme une énorme marée d'équinoxe qui, ayant atteint son point le plus élevé, reflue, la grève découvre d'abord ce qu'elle avait couvert à la fin. Je songe aussi à un film qui tournerait à l'envers. On se met au travail dans les entreprises atteintes les dernières. Tout se terminera sans doute à la régie Renault, où tout avait commencé. Il ne restera plus alors, je pense, dans les amphithéâtres tristes de la Sorbonne, que quelques étudiants privés de leurs rêves, seuls et désespérés, devant les débris de ce qu'ils ont brûlé et de ce qu'ils ont adoré. L'heure est venue, ne croyez-vous pas, de contempler, nous aussi, les décombres, et surtout de tirer une leçon aussi sereinement que possible des événements bouleversants de ces 4 dernières semaines. Tout s'est passé comme si une sorte de délire s'était emparé soudainement de notre pays. Peut-être bien que les étudiants qui occupaient les facultés, que les ouvriers qui occupaient les usines, ne représentaient pas la majorité de ces 2 communautés. J'en suis même sûr. Il n'empêche que personne ne se leva pour dresser un contre-feu à ce gigantesque incendie, jusqu'au jour, hier, où un vieil homme inflexible eut le premier parlé. Et pourquoi ce grand, ce profond silence? Par peur, sans doute, mais cette explication, en fin de compte, ne me suffit pas. Elle est trop simple. En réalité, ceux qui ne faisaient pas ou ne voulaient pas faire la grève, ceux qui ne se battaient pas au quartier latin, ceux-mêmes qui, dans le calme de leur logis, disaient qu'il aurait fallu montrer les dents et la trique et en finir avec tous ces gens-là. Oui, tous les partisans de l'ordre, vous peut-être qui m'écoutez, sentaient un petit pincement du côté de la conscience. Il y avait des raisons au grand chambardement de mai 1968. Ces élèves des facultés ont-ils tort de s'insurger contre un enseignement archaïque et de s'inquiéter de leur avenir? Ces ouvriers, ces employés ont-ils tort de redouter le chômage et de crier qu'il est immoral, inhumain, de laisser plusieurs millions de salariés gagner moins de 600 francs par mois? Alors, bien sûr, il y eut tout le reste. Les violences du quartier latin, la paralysie des grèves, les défilés avec drapeau rouge et drapeau noir, les discours incendiaires, messianiques, annonçant la révolution sociale avec ces mêmes mots, oubliés aujourd'hui, qui semaient l'espoir chez les uns, la terreur chez les autres, à la fin du XIXe siècle. Il y eut tout cela. Et puis, lorsque le général de Gaulle eut parlé, comme si sa voix venait de transformer en un clin d'œil la peur en soulagement, et le soulagement en exaltation, il y eut l'immense défilé des Champs-Élysées sous les drapeaux tricolores et les klaxons et le pinceau de lumière là-bas à l'étoile hier soir. Que le parti de l'ordre, maintenant rassuré, ne devienne pas le parti de la revanche. Aucune révolution, encore moins celles qui sont mortes sans avoir abouti, ne justifie une terreur blanche, même morale et politique. Sagement, M. Georges Pompidou a constitué hier un gouvernement dans lequel il a fait entrer certains hommes qui, vous pouvez me croire, étaient pendant ce mois plus près du travail que du capital. C'est qu'il n'oublie pas, M. Pompidou, les événements qu'il vient de vivre et surtout les causes qui les ont provoqués. Les colères et les espérances que charriait le courant populaire, comment les ignorer? La société ébranlée par les coups de bélier qui lui ont été portés ne peut être simplement rafistolée derrière une façade immuable. Toutes les révolutions, vous le savez comme moi, finissent par être trahies. Celle-ci l'a été, comme les autres, par des rêveurs ou par des trafiquants. Les discours claironnants, les communiqués vengeurs, les proclamations tonitruantes ne transformeront pas une défaite en victoire. Sans doute de vous à moi, parce que la victoire était impossible. Alors, cette révolution trahie par les siens, il faut qu'elle ne le soit pas aussi par les autres. Une moitié de la nation était symbolisée par ceux qui, mercredi dernier, défilaient de la Bastille à Saint-Lazare. L'autre moitié était représentée par ceux qui, le lendemain, défilaient de la Concorde à l'Étoile. La France n'a pas échappé à une guerre civile pour en commencer une autre, qui serait moins violente, mais plus insidieuse. Sous peine de précipiter le pays un jour ou l'autre dans un drame plus sombre encore que celui que nous venons de vivre, il faut que les abandons consentis par tous dans une nuit du 4 août dominée par la peur ne soient pas oubliés dans une journée du 5 dominée par la rancune. De mémoire de Parisien, on n'avait jamais vu d'embouteillages aussi colossaux. Des files interminables de voitures littéralement coagulées, un inextricable enchevêtrement de véhicules. Sur tout cela montait un nuage de gaz brûlé et le tintamarre des avertisseurs aboyant leur rage impuissante. L'essence étant redevenue libre, la circulation cessait de l'être. Paris était hier l'image de la France, d'une France consommatrice et frustrée, agitée et immobile, d'une France qui veut à la fois l'ordre et l'anarchie, de la France de juin 1968. Que se passe-t-il sur le front des grèves? La reprise du travail se fait, quand elle se fait, dans un complet désordre. Telle succursale de banque ou de magasin ouvre ses portes, telle autre non. De telle gare parisienne, les trains sont prêts à partir, de telle autre, point. Les syndicats, n'ayant pas déclenché le mouvement et l'ayant péniblement suivi, manœuvrent avec prudence ce monde du travail qui, à bien des égards, leur est devenu étranger. À l'exception, hélas, des morts de la Pentecôte sur les routes et des millions joués hier à Longchamp, rien de normal ne se produit plus dans notre pays. Tout se passe, et je crois bien que ça s'est passé ainsi, comme si le lien invisible mais fort qui relie entre eux les innombrables pièces de la collectivité nationale s'était d'un seul coup brisé. Avant-hier, Arabes et Juifs se ruaient au combat dans les ruelles de Belleville à propos d'une partie de belote. Hier, c'était à Lyon que s'affrontaient les étudiants en lettres et les étudiants en droit, les uns ayant voulu empêcher les autres de passer leurs examens, jusqu'à la manifestation des jeunes gaullistes place du Trocadéro hier, qui fut troublée par des groupes venus crier « Libérez Salan ». Une société n'existe que dans la mesure où les éléments qui la composent forment un tissu vivant, subissant comme celui du corps humain les atteintes de la maladie et reconstituant ensuite sa substance. Cette fois, on croirait que ce tissu s'est déchiré, effiloché, qu'il tombe en lambeaux. Il s'agit bien, du moins je le sens ainsi, d'une crise de civilisation, beaucoup plus grave et profonde à mon avis que la plupart des Français, ceux qui la provoquent et ceux qui la subissent ne l'imaginent. Derrière les usines occupées, derrière ce club révolutionnaire installé à la Sorbonne, derrière le comité de grève de l'ORTF, derrière les motions comminatoires adressées par le jeune clergé à l'épiscopat, derrière le consistoire pris d'assaut par les boy scouts juifs, derrière la lance d'arrosage dont les grévistes ont aspergé le directeur des galeries Lafayette, bref, derrière toutes les manifestations inquiétantes, extravagantes ou réconfortantes que nous voyons se produire, jour après jour, sous nos yeux, s'exprime un refus de l'autorité, ou du moins de l'autorité telle qu'elle est exercée. Et je ne veux pas seulement parler du général de Gaulle, encore qu'il occupe la première place, ni du gouvernement, mais de toute autorité établie, quelle qu'elle soit. Le directeur d'entreprise, le chef syndicaliste, l'évêque, le leader politique, le professeur, le patron d'un service hospitalier. En même temps, naît une exigence très diffuse, imparfaitement conçue et mal exprimée, corollaire de la première attitude, le désir de participation. En un mot, chacun de ceux sur qui s'impose un pouvoir veulent être associés à ce pouvoir, ils veulent participer à l'élaboration de la décision et non plus seulement la subir. Et quand je lis dans la presse qu'à leur tour les étudiants yougoslaves condamnent ceux qu'ils appellent les bourgeois rouges de Belgrade, je pense que cette crise de civilisation dépasse largement nos frontières. Or, cette explosion s'est produite alors que notre pays, sans avoir atteint le paradis de la société dite de consommation, et croyez bien que je n'oublie ni les bas salaires, ni le chômage, ni les autres plaies sociales, cette explosion s'est produite dans une France relativement prospère. Quel nouveau drame risque de faire naître une crise économique dont l'éventualité n'est malheureusement pas à écarter? À cette question, comme à toutes les autres, les gaullistes répondent par « guerre au communisme » et les communistes par « guerre au gaullisme ». Voilà dans quelles conditions, en pleine période de passions exacerbées, se déroulera une campagne électorale où vont s'affronter, alors que tout le système des valeurs traditionnelles est ébranlé, les perpétuels sortants. Notez bien que je n'ai rien contre les sortants, certains d'entre eux sont mes amis, et j'entretiens avec beaucoup des relations cordiales. Simplement, j'aimerais qu'ils expliquent une bonne fois aux citoyens de ce pays, les uns ce qu'ils feront dans l'avenir d'un pouvoir qu'ils détiennent depuis 10 ans, les autres ce qu'ils tireraient de programmes réduits à des têtes de chapitre. D'une manière plus précise, au lieu de se lancer des anathèmes qui risquent de jeter de l'huile sur un feu qui n'est pas éteint, loin de là, les formations politiques seraient bien inspirées d'expliquer comment ils conçoivent la société française de l'avenir et comment ils comptent associer les citoyens à cette transformation. Il est vrai que ce gigantesque travail ne peut être réservé aux parlementaires, ni aux ministres, ni aux chefs de l'État, mais à chaque patron dans son entreprise, à chaque maire dans sa commune, à chaque évêque dans son diocèse, à chaque professeur dans sa classe. J'ai la naïveté de croire que ce débat, ouvert à tous les niveaux et au sein de toutes les collectivités, serait plus profitable que le lourd silence des usines en grève ou que le hurlement de l'émeute. Un mort avant-hier au Mureau, un mort hier à Sochaux, un étudiant de 18 ans, un ouvrier de 24 ans. Or, tout le monde sait, hélas, que les cadavres sont les étendards des émeutes. Aussi, de nouvelles violences ont-elles éclaté, hier soir et cette nuit, à Paris et dans plusieurs villes de province, notamment Toulouse, Saint-Nazaire et Lyon. Très rapidement, je voudrais rappeler quelles sont les causes immédiates des deux drames qui eux-mêmes se trouvent à l'origine de cette recrudescence de troubles. Près des Mureaux, c'est Flin, l'usine Renault. À Sochaux, c'est l'usine Peugeot. Or, l'industrie automobile représente le dernier grand secteur en grève, le dernier et le plus dur. Les pouvoirs publics, est-ce contents d'assurer ainsi la liberté du travail, avaient acheminé sur Flin et sur Sochaux des CRS. Des groupes d'étudiants révolutionnaires, ou ce que les syndicats appellent des éléments incontrôlables, firent alors leur apparition et opérèrent ce qu'on pourrait en langage militaire appeler leur jonction avec de jeunes ouvriers des usines. C'était déjà de jeunes ouvriers, rappelez-vous, qui provoquèrent à Cléon, il y a presque un mois, en occupant les lieux de travail, la marée des grèves qui en 3 jours s'étendit sur la France. Et de ces jeunes ouvriers, on en voyait au meeting étudiant du stade Charletti, il y a 15 jours, et cette nuit, dans les rues de Paris. Appartiennent-ils aux mêmes chapelles, révolutionnaires, que leurs camarades des facultés? Pour certains d'entre eux, je le crois, mais peu importe, au fond. Le fait est que cette communauté existe, même si les militants ne représentent qu'un effectif restreint. Nous venons de faire depuis 5 semaines l'expérience vécue de ce que nous ne connaissions que d'une manière abstraite sous les mots de minorités agissantes. Les syndicats, résistant de toutes leurs forces aux opérations de débordement, s'attaquent donc aux causes de cette nouvelle flambée, à ces causes immédiates dont je parlais tout à l'heure. Ils ont demandé le retrait des CRS et la réouverture des négociations avec le patronat. Ces deux demandes ont été satisfaites. Les forces de police se sont éloignées de Sochaux et la direction de la régie Renault a fermé l'usine de Flins. Quant aux pourparlers, ils doivent reprendre dans les deux entreprises. Mais tout le monde le comprend, le fait de ne pas fournir de prétexte aux révolutionnaires ne règle pas vraiment le problème. Maoïstes, trotskistes et autres, ils ne s'intéressent qu'indirectement aux revendications des ouvriers et des étudiants. Ce qu'ils veulent, c'est créer par tous les moyens une situation explosive, insurrectionnelle. Alors que tout ce qui existe en France en dehors d'eux, sauf peut-être quelques groupuscules d'extrême droite, a choisi la voie de la légalité, c'est-à-dire dans le prochain avenir les élections, ils ont, ces révolutionnaires, opté pour l'illégalité. Le dialogue, il faut le reconnaître, devient de ce fait impossible. Du reste, c'est un phénomène bien connu, auquel n'échappe aucun mouvement de ce genre dans des périodes comme celles que nous traversons. Il n'est point de gauchiste qui ne trouve plus gauchiste que lui. Si enragé soit-on, un voisin qui l'est davantage ne tarde pas à se révéler. Dans la course au maximalisme, on est toujours dépassé. C'est bien ce qui se produit. Hier, à la Sorbonne, quelques ultra-gauchistes, pour reprendre la formule de M. Valdec-Rochet, ont brisé avec l'UNEF, le SNESUP et même le mouvement du 22 mars, fondé par Daniel Cohn-Bendit, sous prétexte qu'ils étaient trop modérés. Allez savoir si ce sont eux, les dissidents, qui ont lancé les opérations de cette nuit. Bien qu'elles démontrent, ces opérations, l'existence d'une tactique et d'une organisation au plan des responsabilités, personne ne contrôle plus personne dans cet univers de la fureur déchaînée dont la Sorbonne est devenue à la fois le temple et le camp retranché. De là, de la vieille université jaillissent aux appels à l'émeute des bandes d'étudiants qui se répandent à travers Paris, y sèment le désordre et finissent par se heurter aux forces de police qui les refoulent de barricade en barricade jusqu'à leur bastion où ils se reposent et pansent leurs plaies en attendant la prochaine sortie. Je sais que l'existence au cœur d'un quartier latin déchiré où les habitants vivent dans l'angoisse, je sais que l'existence d'une chaudière en ébullition pose au gouvernement un terrible problème. Les quelques milliers d'étudiants qui occupent la Sorbonne ou qui gravitent autour d'elle refusent toute négociation, tout contact, toute relation, rien qui puisse, de près ou de loin, leur apparaître comme une concession envers une société qu'ils veulent détruire. Dans ces conditions, l'immobilité du pouvoir est peut-être condamnable, mais elle est explicable. Que faire? Oui, que faire? On sent monter dans l'opinion publique une exaspération qui risque un jour, elle aussi, de n'être plus contrôlable. Faudra-t-il que les excès en engendrent d'autres? Il n'est pas possible, en tout cas, les étudiants doivent le comprendre, même les plus farouches d'entre eux, il n'est pas possible que la situation actuelle se prolonge très longtemps, que la Sorbonne continue d'être une place forte et le quartier latin un champ de bataille. Les jeunes nihilistes qui entretiennent leur exaltation nocturne en incendiant des voitures, en brisant les panneaux électoraux et en dépavant les rues, seraient-ils, comme certains le disent, prêts à des sacrifices insensés au milieu de l'hostilité de toute une population? La cause que défendent les étudiants et leurs camarades ouvriers, et qu'ils ont passionnément embrassée, mérite en tout cas mieux que des désordres pitoyables. L'heure est venue de dire « il faut savoir terminer une émeute ». J'ajouterai pour conclure que cette révolution, amorcée en mai, car je crois qu'elle n'est qu'amorcée, se développe pour la première fois depuis longtemps, peut-être depuis 1789, non pour la conquête de l'égalité, mais pour la conquête de la liberté. Elle peut s'accomplir, cette révolution d'une nature particulière, non seulement sans effusion de sang, mais même sans violence. Bien entendu, cela signifie l'entrée dans l'inconnu. Il ne s'agit pas de chasser un monarque, et de conquérir des droits politiques, comme les Français l'ont fait 5 fois en moins de 2 siècles, mais d'imposer de nouveaux rapports sociaux au monde industriel. Et je me demande si, plus que les barricades de Paris, plus que la grande paralysie des grèves, ce n'est pas le vertige qui s'est soudain emparé de la nation devant cet inconnu qui l'a secoué du grand frisson de la peur.